L'évangile de Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Et nous continuons dans le chapitre 16, versets 12 à 15. Au nom de Jésus. Celui qui doit vous aider viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il parlera de moi. Et vous aussi, vous parlerez de moi, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas avec sa seule autorité, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Aujourd'hui, nous avons la joie, bien sûr, d'assister à la confirmation de nos jeunes. C'est vrai que c'est un moment de fête, car c'est un moment capital dans la vie d'un croyant. Mais qu'est-ce qui rend particulier le temps de la confirmation, surtout en ce dimanche de Pentecôte? Revenons un peu à l'histoire des disciples. Après la résurrection, ils se sont encore enfermés, comme on a dit tout à l'heure, dans une pièce. Ils avaient très peur, mais ils attendaient aussi les consignes. Des consignes qui étaient très claires. Et lorsque le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte, la mission a commencé ce jour-là. Et voici la consigne qui a été donnée par Jésus lui-même. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Donc Pentecôte était le jour de la confirmation des disciples. Pentecôte, c'était le jour de la confirmation des disciples pour aller en mission. Et ils ont reçu l'ordre de partir en mission ce jour-là. C'est pour cette raison que beaucoup d'églises pratiquent la confirmation, le jour de la Pentecôte, qui symbolise ce début de la mission par cette confirmation. Deux mots capitaux sortent de ce texte, Trinité et mission. Et cela tend bien à ce grand jour où nous ferons la confirmation de nos jeunes. La confirmation n'est pas une condition pour venir à la Sainte Cène. C'est ce qui nous différencie de l'Église catholique. La confirmation n'est pas une condition pour venir à la Sainte Cène, puisque tous baptisés peuvent, je dis bien peuvent, mais pas automatique, ce n'est pas obligatoire, peuvent venir à la Sainte Cène. Alors, quelle serait l'importance de cette pratique d'Église? Pourquoi on l'a mis dans la pratique d'Église, la confirmation? Pour répondre à cette question, je vous invite d'abord à replonger dans le texte, et nous pouvons voir clairement que le Père ici a envoyé le Fils, et par la suite le Fils a aussi envoyé le Saint-Esprit avec le Père. C'est ce que les théologiens appellent la missio Dei, la mission de Dieu. Nous avons, comme je l'ai dit au tout début du culte, l'habitude d'entendre que Dieu envoie en mission, c'est vrai. Mais avant cela, le plus important, ce qu'il faut savoir, la base de la mission de l'Église, des chrétiens, c'est que Dieu lui-même s'est laissé envoyer. Et c'est très important de le souligner. Si on ne connaît pas pourquoi Dieu m'a envoyé, parce que lui aussi, il a été envoyé. Et à partir de là, nous puissions mesurer l'importance de la mission. La mission n'est pas une option, la mission, c'est l'essence même de la Trinité. La Trinité n'existe pas sans la mission des trois personnes. Le Père envoie le Fils et le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Alors si le Père a envoyé le Fils et que le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit, cela met en valeur l'importance de l'envoi. Ce n'est pas juste une activité d'église, comme n'importe quelle activité, mais c'est vraiment le plan divin. Et permettez-moi l'expression, c'est une affaire divine, la mission. Et cela signifie que la mission que Dieu a donnée à ses enfants, à tous ses enfants, c'est-à-dire tous les baptisés, découle de la mission entre les personnes de la Trinité. Ce n'est pas une exigence que Dieu demande, mais c'est la révélation de Dieu, qui il est et pourquoi il l'a fait. Ce que je veux vous faire partager à travers cette méditation, c'est que si Dieu a pris l'initiative d'envoyer le Fils, et que par la suite le Père et le Fils aussi ont envoyé à leur tour le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a une gravité de la situation. Gravité dans le sens de la haute importance. Et c'est ça l'essence de l'Église. Il aurait pu confier cela aux anges. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé ses anges pour faire la mission? Ou autre. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui se jette à l'eau pour devenir missionnaire. Le Fils sort du Père et le Saint-Esprit du Père et du Fils, c'est-à-dire des missionnaires, non pas dans le sens d'un agent qu'on envoie, comme les fonctionnaires ou les émissaires d'un organisme, pour exécuter un ordre qu'on lui donne, mais des missionnaires qui ont la même substance divine, la même gloire, mais qui acceptent d'être envoyés. Qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Nos jeunes qui vont faire leur confirmation aujourd'hui, elles ont été déjà baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit le jour de leur baptême. C'est fait. Elles sont non seulement adoptées comme enfants de Dieu, mais ce titre d'enfant de Dieu signifie par conséquent qu'elles ont aussi reçu un ordre de mission comme le Fils de Dieu. C'est d'aller témoigner et faire des disciples comme Jésus l'avait fait. Cela signifie, chers amis, le jour de votre confirmation, vous vous engagez à accomplir la tâche qui revient qu'aux enfants de Dieu. Donc c'est un honneur. C'est un honneur de recevoir cette mission parce que cela est une preuve palpable, une preuve tangible que vous êtes enfant de Dieu. Dieu ne confie pas sa mission en dehors de son cercle familial. Dieu confie sa mission qu'à ses enfants, comme le Fils qui a accompli la mission. La mission que vous recevrez aujourd'hui est une marque de confiance, un honneur que Dieu vous donne et qui vous rappelle que vous faites partie de son cercle privé. Vous avez vu l'image, l'icône qu'on a choisie, dans un cercle privé, restreint, le cercle des enfants de Dieu. Et cela a été bien manifesté tout à l'heure. Et on va le concrétiser au moment où on va venir à la table de la Sainte Cène, qui montre que vous faites partie de sa famille. Alors, la mission que nous héritons de notre Père ne devrait pas être un poids, ni un fardeau, mais une marque de proximité, une marque d'union avec le Père. Et si jamais c'est le cas, si jamais ça devient un poids, alors là, nous devrions revoir notre lien et notre relation avec celui que nous appelons Père. Alors, fixons en tête cette phrase de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ici, ce n'est pas la façon dont le Père a envoyé son Fils qui est mise en avant, mais c'est une conscientisation que le Fils a été envoyé par son Père, parce qu'il était son bien-aimé. Le Père avait dit cela à deux reprises dans l'Évangile. Puisqu'il est le bien-aimé, le Père l'a envoyé. Voici mon Fils, bien-aimé, écoutez-le. Vous voyez, Dieu envoie son Fils, écoutez-le parce qu'il est mon bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'il est prophète, ce n'est pas parce qu'il était rabbi, mais il est mon bien-aimé, c'est mon Fils, alors écoutez-le. Et donc nous aussi, quand le Christ nous envoie, il faut enlever de notre tête l'image d'une subordination, mais c'est plutôt une marque ou un signe que nous sommes aussi les bien-aimés de notre Seigneur. Et les paroles de Jésus sont si claires quand il dit « Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Jean chapitre 15, verset 15. Regardez bien le type de rapport qu'il y a ici. C'est un rapport d'amitié et non d'un maître avec son esclave. Pas de sens de soumission, ni une idée d'écrasement, comme si nous n'avons pas le choix et que nous sommes obligés à le faire. Par conséquent, l'envoi à la mission devrait être vu comme une preuve d'amour et non une contrainte, chers amis. Et si vous regardez la Bible, dans les histoires de vocation dans la Bible, quand l'Éternel avait choisi des hommes et des femmes, la plupart se sont débattus pour refuser cet appel. Et celui ou celle qui a refusé et qui a changé d'avis à la fin, quand ils se sont rendus compte que ce choix ou cet appel, c'est une faveur ou une grâce, c'est là qu'ils ont compris pourquoi Dieu les appelait. Comme David qui avait dit « Qui suis-je, Seigneur? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ?» Un choix qui n'a pas d'explication, c'est un choix d'amour. Et si nous jetons aussi un petit coup d'œil dans l'Ancien Testament, les choix faits par Jacob, par exemple, il avait préféré Joseph. Pourquoi ? Parce que son cœur et son regard est tombé sur lui. Et cela a rendu jaloux ses frères. Le choix n'a pas d'explication. Mais voilà cet amour qu'on peut dire de particulier est un choix qui nous pousse à la responsabilité. Comme Joseph, même s'il a été préféré de tous ses frères, il avait compris plus tard que tout cela avait un but précis, sauver ses frères et son peuple de la famine. Alors, celui ou celle qui se sent aimé de façon particulière ou exclusive ne pourra jamais contenir cela pour lui seul. Comme Jésus, il est le Fils unique, unique, il est le bien-aimé, mais il a partagé cela avec nous. Et puisque, comme Jésus nous a aimés, comme le Père a aimé son Fils, nous aussi, à notre tour, nous nous lançons dans la mission pour le salut des autres. Amen.